www.libradio.org. La station debout.
Donc nous sommes le samedi 27 mars 2021. Nous parlons aujourd'hui avec Julien. Bonjour à toi et bienvenue. On est ravis de te recevoir. On va parler de la Plume Noire qui récemment a essuyé à nouveau une attaque fasciste. Donc la Plume Noire, on va te demander pour commencer de nous dire qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est. Et puis toi, si tu veux bien, quel est ton rôle au sein de la Plume Noire ?
Du coup, la Plume Noire, c'est une librairie autogérée associative qui existe sur Lyon depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Donc autogérée, ça veut dire que depuis 30 ans, on touche aucune subvention et qu'elle vit et qu'elle survit grâce à l'investissement des militants et des militantes qui la composent. Donc ce lieu-là, la Plume Noire, depuis 10 ans maintenant, il est situé au 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon. Et donc ce lieu a été autogéré successivement par un groupe de la Fédération anarchiste quand à Lyon on faisait partie de l'AFA, puis de la CGA, de la coordination des groupes anarchistes, et depuis maintenant presque 2 ans par les militants et militantes de l'Union communiste libertaire.
Donc l'UCL.
L'UCL, exactement. Donc ce lieu-là qu'on occupe maintenant depuis plus de 10 ans là sur les au 8 rue Diderot, il a été fait le choix à l'époque, moi j'étais pas encore, d'acheter un local avec des dons de camarades pour éviter ce qui s'était passé avec l'ancien local, à savoir être délogé par le propriétaire à la fin du bail. Pour essayer d'avoir une occupation un peu pérenne sur ce lieu-là, mais donc c'est ce qu'on fait depuis 10 ans maintenant. Donc voilà, on continue à rembourser les camarades petit à petit, mais ce qui nous permet d'avoir une assise sur le quartier, de pouvoir exister sans avoir peur de se faire mettre dehors.
Ça, c'était du temps de l'avenue Blanc.
Ouais, donc avant, effectivement, c'était rue Pierre Blanc. Voilà, donc là, on était locataire et effectivement, sous des motifs un peu fallacieux, du coup, le propriétaire a pas voulu reconduire le bail. Et puis même, je crois, jusqu'à très peu de temps, les travaux avaient toujours pas commencé. Donc ça faisait un peu plus de 10 ans qu'on avait été viré de là-bas, soi-disant pour un beau projet. Il y avait toujours rien eu depuis près de 10 ans. Donc voilà. Donc moi, je suis un des militants, du coup, de la librairie autogérée La Plume Noire et de l'UCL. J'étais avant aussi à la coordination des groupes anarchistes. Et moi, ça fait à peu près 10 ans, à peu près depuis qu'on a emménagé là sur ce nouveau lieu que je milite au sein de la Plume Noire.
J'aimerais beaucoup savoir en fait comment ça fait en fait ta rencontre avec la Plume Noire et puis comment ça fait ta rencontre avec l'anarchisme.
Ah ouais, du coup moi je milite, alors avant j'étais, j'ai 40 ans à peu près, je milite depuis une dizaine d'années. Et donc avant, j'étais pas du tout dans cette mouvance-là. J'étais pas dans une mouvance politique non plus. Voilà, j'avais mes petites idées déjà sur tout ça, sans trop le savoir en fait. Et en fait, en 2010, moi, j'ai commencé un peu à militer via le réseau Éducation sans frontières. Voilà, qui s'occupe pas mal d'enfants scolarisés sans papiers et de leurs familles. Du coup, ce qui m'a permis de mettre un pied un petit peu sur des premières luttes sociales, on va dire. Ensuite, comme moi depuis très longtemps aussi, je suis très porté sur même si je le mettais pas en place jusqu'à avant, sur des luttes contre l'extrême droite. En tout cas, j'étais vraiment axé là-dessus aussi. Et donc, ce qui m'a permis du coup via RESF d'intégrer un collectif de lutte contre l'extrême droite qui existait sur Lyon. Donc voilà, j'étais mandaté là-dessus sur ce collectif-là. Ce qui m'a permis ensuite de voir qu'en fait, il y avait plein d'autres luttes qui étaient liées à celle-ci. Il n'y avait pas du coup que les luttes pour les sans-papiers et l'immigration, mais il y avait aussi les luttes antifascistes. Il y avait des groupes antifa qui faisaient partie de ce collectif-là, les Voraces à l'époque sur Lyon notamment, les luttes sur le logement. Et puis petit à petit, du coup, tu participes à plus en plus de choses, tu rencontres de plus en plus de gens. Et j'ai commencé à bouquiner 2-3 bouquins sur l'anarchisme, notamment, je crois, « Qu'est-ce que l'anarchisme ?» de Berkman, qui m'a un peu ouvert les yeux. En fait, du coup, j'étais anarchiste depuis un moment sans trop le savoir, comme peut-être beaucoup de monde. Et du coup, je me suis rapproché petit à petit de la Plume Noire et de ses militants et militantes. Et puis, ça a été, je crois, un des seuls groupes à pas vouloir me mettre le grimpeur dessus. Parce que quand on est nouveau militant, militante dans une ville, il y a toujours un peu tous les partis, les organisations qui cherchent un peu à te mettre la main dessus. Ça a été les seuls vraiment réglo là-dessus. En tout cas, pas le faire sentir. Et petit à petit, tu participes à tes premières réunions, etc. Puis tu vois qu'en fait, ça t'intéresse, tout t'intéresse à fond. Et du coup, assez rapidement, je crois que, en février 2011, j'ai demandé mon adhésion, à la CGA à l'époque. Et depuis, je suis toujours dans le coin. Et puis, on a pris la suite maintenant avec l'UCL.
L'extrême gauche, il y a eu des dérives. Je pense par exemple à Staline. Est-ce que l'anarchisme est concerné par les mêmes problèmes ou est-ce que c'est vraiment des idéaux vraiment très, très, très différents? entre les deux. Il y a des dangers, en fait, de dérives dans l'anarchisme.
Oui, alors il pourrait y en avoir, mais c'est vrai qu'il y a quand même des grosses différences, ne serait-ce que notre organisation, en fait, en tant que telle, et c'est vraiment des choses qu'on essaye de mettre en place aussi quand on bosse dans des collectifs unitaires, où il peut y avoir des groupes un peu stables, un peu autoritaires, enfin, il y en a du coup forcément, hein. Il y a des groupes trotskistes, etc., etc., et nous, on essaie vraiment d'amener notre vécu là-dessus, et même notre mode d'organisation, même en termes d'organisation de réunion de ces collectifs-là, voilà, bien montrer que, du coup, on vient en tant que mandaté, que ce serait bien que les autres orgas fassent pareil, que le secrétariat, il est tournant, qu'on fait tourner les tâches au sein de ce collectif-là, et qu'on essaie vraiment d'apporter nos bases là-dessus, vraiment pour nous aussi nous différencier politiquement là-dessus, et parce que des fois, ça peut aller très vite, hein, sur des collectifs où il y a pas mal de groupes autoritaires, où les décisions sont prises à la va-vite, sans demander l'avis de tout le monde, etc. Enfin, vous connaissez peut-être un peu ça aussi, et que du coup, voilà, on essaie d'amener aussi cette différence-là, et moi, c'est ce que je retrouve toujours au sein de l'UCL et avant de la CGA, et qui me convient parfaitement, en tout cas, dans nos modes de décision et de fonctionnement.
Puis j'imagine que vous avez vraiment des contacts assez étroits avec la CIRA à Marseille, enfin le Centre international de recherche sur l'anarchisme.
Oui, on en a quelques-uns. C'est vrai qu'aussi, sur Lyon, on a aussi le CEDRAT, qui est un centre d'études et de recherche, d'archives, en fait, sur l'anarchisme et sur les luttes sociales, et qui est vraiment situé dans le même quartier que la Plume Noire, qui est tenu par un Italien qui s'appelle Mimo, et qui du coup, voilà, on a pas mal de liens avec eux aussi, voilà, c'est assez sympa d'aller voir son local si un jour vous passez sur Lyon, parce que c'est une mine d'informations, il y en a de partout, et du coup, voilà, on a aussi ce lien-là, voilà, plus local en tout cas, voilà, sur un truc du même truc qu'à Marseille.
Est-ce qu'il y a des grandes forces convergentes, enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de liens et d'échanges entre les différents groupes à obédience anarchiste en Europe ou en France, hein.
Ouais, alors du coup, alors des fois, c'est toujours un peu compliqué, hein. Il y a toujours des antagonismes qui font que, alors, des fois, qui viennent du passé, hein, qui sont des fois un peu difficilement surmontables. Bah, on a réussi entre Alternative Libertaire et la CGA à le faire pour créer un truc positif avec une nouvelle orga. Alors des fois, c'est un peu compliqué, les rapports qu'il peut y avoir. Alors, je sais que sur Lyon, par exemple, il y a d'autres groupes anarches qui existent, hein. Il doit y avoir un groupe de l'AFA et puis après des isolés de l'AFA qui sont pas dans le même groupe que l'AFA. Alors, ce qui crée des fois des choses un peu compliquées en termes de relations. Voilà, en tout cas sur Lyon ensuite, bah, il ne doit pas exister de groupe strictement libertaire, il ne doit pas en exister d'autres, et alors après ça dépend des points de ville en France, hein. Des fois il y a des bonnes relations entre les différents groupes, des fois c'est un peu plus tendu. En tout cas, nous, on essaie toujours de jouer un petit peu sur l'unité et sur l'unitaire, alors que ce soit avec des groupes libertaires ou pas sur certaines questions, voilà, pour avoir plus d'impact aussi. C'est le cas notamment au niveau de la lutte contre l'extrême droite, parce qu'on a toujours fait partie de collectifs unitaires vraiment larges. On essaie de ne pas trop élargir non plus, mais voilà, pour accentuer un peu la lutte et puis vraiment avoir une assise face à la population quand on leur montre, voilà, c'est pas la même chose non plus, parce qu'il reste quand même beaucoup de travail pédagogique à faire sur l'anarchisme, voilà, dans toutes nos villes où on est, et du coup d'apparaître des fois dans des collectifs unitaires, ça facilite aussi un petit peu la tâche.
Est-ce que vous êtes confiant par rapport à l'avenir? Est-ce que vous pensez que vu les crises écologiques, qu'il y a une prise de conscience qui se fait, qu'il y aura plus de gens qui vont se tourner vers par exemple les collectifs qui organisent la Plume Noire, etc.? Ou est-ce que plutôt vous êtes un peu plus sceptique et que les choses ne vont peut-être pas forcément s'améliorer, enfin il y aura peut-être pas de prise de conscience? Quel est votre point de vue?
Si, alors en fait il y a eu une espèce de petite pente positive là depuis la création de l'UCL, parce que comme pour une fois dans les groupes anars, mais c'est le cas dans d'autres branches politiques, hein, du coup la création s'est pas fait sur une scission mais sur le rapprochement de deux organisations, ça a eu quand même un effet assez positif sur les gens qui s'intéressaient déjà un tout petit peu, voilà, à notre idéologie, qui a fait que du coup on voyait quand même des gens qui sont arrivés, voilà, en mode, voilà, c'est quand même bien, voilà, c'est un truc positif, vous êtes alliés pour créer quelque chose d'autre, pour avoir plus de poids, et donc ça a pas mal joué. Et puis mine de rien, depuis 2 ans on a vraiment pas mal de monde qui passe. Alors après, il n'y a pas forcément d'engagement derrière, hein, mais qui viennent se renseigner justement sur l'idéologie, sur comment on fonctionne, sur quelles thématiques on se bat plus particulièrement, etc. Et ce qui amène du coup à des gens à participer à des luttes avec nous. Nous, on a un petit système assez particulier qui n'est pas le cas dans tous les groupes UCL, mais on fonctionne sous forme de commissions front de lutte qui sont ouverts du coup aux sympathisants et sympathisantes de l'UCL. Donc on ne faut pas forcément être adhérent et adhérente pour pouvoir lutter avec nous. Donc, ce qui est hyper intéressant, parce que ça peut amener des gens soit à rester sympathisants et sympathisantes, ce qui n'est pas grave du tout, mais de toucher un petit peu déjà à l'idéologie communiste libertaire et de pouvoir participer à des luttes concrètes avec nous, à d'autres de nous rejoindre au bout d'un moment parce qu'ils ont envie d'être adhérents pour avoir un peu plus de poids, notamment dans nos décisions politiques. Et ce qui amène un cercle un petit peu de militants et de militantes qui est assez intéressant.
Et est-ce qu'il y a des exemples aujourd'hui de communautés, à vos yeux, hein, de communautés qui peuvent représenter l'anarchisme, qui qui sont des modèles.
Alors après, bah, il y a des modèles historiques, bien évidemment, sur lesquels on s'appuie un peu tous et toutes depuis un moment. Après, on s'intéresse vraiment, c'était une particularité de la CGA, et c'est le cas aussi maintenant de l'UCL, à ce qui se passe en fait en dehors du continent européen aussi, parce que c'est hyper important de pas rester centré voilà sur l'Europe aussi. Et on a vraiment beaucoup de liens avec pas mal de groupes ANAR en Amérique du Sud. Et on essaye de piocher aussi un petit peu sur leur modèle d'organisation. Voilà, je parlais tout à l'heure de cercles un petit peu militants avec des sympathisants et sympathisantes. Bah, c'est un peu ce qu'ils font eux là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment des groupes assez larges, des groupes concentriques de militants et de militantes avec un noyau dur, voilà, politique qui vraiment du coup est à fond les ballons un peu tout le temps sur les décisions politiques, etc. Puis avec plusieurs cercles de militants qui ont moins de temps de s'investir, mais qui sont ok avec l'idéologie et qui du coup permet voilà d'avoir quand même des cercles de militants assez importants. Et c'est vraiment bien de voir ce qui se passe un petit peu au niveau de l'Amérique du Sud en ce moment, notamment en Argentine, au Brésil, mais aussi dans d'autres pays, parce que il y a peut-être vraiment à piocher là-dedans dans la mode d'organisation.
Et puis, est-ce que les Kurdes sont un exemple pour vous ?
Ah oui, carrément, c'est vrai que du coup, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais oui, de toute façon, on a été forcément en soutien depuis des années avec ce qui s'est passé au Rojava, et que évidemment, enfin, alors après, on le sait, on n'est pas non plus naïf et naïf dessus. On a vu un peu l'évolution idéologique de leur leader Öcalan, et ce qui s'est passé notamment au Rojava, bah, c'est assez impressionnant en termes d'organisation. Alors, c'est ce qui se rapproche le plus pour le moment, en tout cas en termes d'expérience, on va dire contemporaine, sur ce que nous on pourrait proposer en termes d'organisation de société. Et on a été très touchés, bien évidemment, par tout ce qui se passe là-bas depuis l'abandon des pays occidentaux, de tout ce qui s'est passé au Rojava.
Ok. Voudrais-tu nous dire quelques mots de l'équipe, combien vous êtes, et puis de quelle manière est-ce que vous vous organisez au sein de la librairie ? Parce qu'il y a de nombreuses tâches, hein. Plus qu'on ne le pense dans une librairie. Il faut travailler, il faut faire des commandes, il faut avoir des fournisseurs, il faut mettre les choses en vente, enfin, il faut faire plein de trucs, quoi.
Ouais, c'est ce qui est assez compliqué d'ailleurs, parce que ce lieu-là, du coup, bah, il nous sert de lieu physique, voilà, pour le groupe de l'UCL, lieu de réunion, etc., etc. Et une de nos activités parmi tant d'autres, et effectivement, c'est la librairie. Donc, pour le moment, on arrive à ouvrir deux fois par semaine, et effectivement, il y a des gens, voilà, au sein du groupe de l'UCL qui sont mandatés spécifiquement sur la librairie pour tout ce qui est effectivement commande, gestion du stock, voilà, etc., etc., pour pouvoir du coup faire tourner. Parce que du coup, c'est une des grosses parties qui nous permet de faire vivre le lieu et de le tenir, voilà, au niveau financier, parce que c'est très compliqué de tenir un local et de le faire vivre sur la durée. Et du coup, c'est une des activités, c'est la librairie. Et puis après, le reste, on essaie de faire vivre. Alors, c'est très compliqué depuis un an en France, puis mais comme un peu de partout avec les restrictions sanitaires. C'est vrai qu'on a plus trop le droit de faire d'activités publiques, mais c'est ce qui faisait aussi beaucoup vivre le local avant le Covid-19, à savoir organiser des discussions, des débats, des projections, des petits concerts, voilà, essayer de faire tourner le lieu pour récupérer aussi un peu de thunes, faire vivre aussi l'idéologie libertaire et faire vivre le local, voilà, en continuant à le faire tourner, ce qui est un peu compliqué effectivement depuis un an là.
Ouais, c'est très bien, tu réponds déjà à des questions par avance, c'est cool, ça nous permet d'avancer. Donc on l'a dit, c'est une librairie engagée et également un lieu de contact et de solidarité, on peut le dire.
Ouais, carrément, parce que du coup, nous, alors en tant qu'UCL, on essaie d'organiser, enfin, hors Covid, le maximum d'activités, que ce soit pendant nos permanences du mercredi ou du samedi, ou même en dehors. Et comme c'est un lieu qu'on aime bien partager, on le prête sans aucune réticence, bien évidemment, à d'autres collectifs, à d'autres associations qui n'ont pas de local et qui en ont besoin, soit pour des réunions, soit pour leur activité. Alors, c'est le cas, par exemple, depuis nous, le mois de septembre, il me semble, avec l'association PES, pour l'égalité sociale et l'écologie. Du coup, qui organise des collectes alimentaires deux fois par semaine à la Plume Noire. Donc, on les accueille, bien évidemment, et ils font la redistribution aussi par la Plume Noire. Et il y a aussi l'organisation de cours de langue, voilà, notamment pour des mineurs isolés, des mineurs étrangers isolés. Mmh. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui se passent. On prête aussi pas mal notre local à un collectif qui s'appelle 2MSG, qui accompagne des personnes migrantes LGBT, voilà, sur leur parcours et sur leur demande d'asile, notamment.
Ok. On va venir après sur le regard que portent les gens du voisinage sur vos activités. Mmh. Mais avant cela, je sais pas si en quelques mots tu voudrais nous dire, à moins que ce soit trop, compliqué, de quelle manière est-ce que de la CGA, on est passé à l'UCL?
Ah ouais, très simplement, hein, la CGA, on est arrivé à un moment donné où il y avait eu quelques défédérations, c'est-à-dire des groupes qui étaient partis sur des mésententes politiques, notamment féministes. Voilà, nous on avait quand même beaucoup avancé au sein de la CGA là-dessus, et c'est vrai que ça posait un petit peu souci. Alors c'était un peu les mêmes soucis qu'il y avait eu à l'époque, un petit peu aussi avec l'AFA, quand les groupes de l'AFA étaient partis, avaient ensuite créé la CGA. Et puis, on était arrivé, voilà, un espèce de sommet où on n'arrivait pas à progresser plus que ça et où on s'épuisait un petit peu. Et on s'était dit plutôt que de tirer la langue et de maintenir le cap comme on le faisait, il y a une demande qui a été faite du coup à un autre groupe communiste libertaire qui s'appelle Alternative Libertaire. On avait quand même pas mal de points en commun et donc du coup c'est un processus qui a duré 1 an et demi. On a commencé une première rencontre pour savoir ce qui serait possible de faire ensemble. On a étudié un petit peu toutes les thématiques, les points communs qu'on avait, les divergences, que ce soit au niveau politique, au niveau même de l'organisation même d'une fédération, voilà, de groupes anarchistes. Et du coup, au bout de ces 1 an et demi, les deux organisations ont dit banco. Et on a du coup concrétisé ça par un congrès qui s'est tenu il y a un peu moins de 2 ans là dans l'Allier. Et avec du coup la création de l'UCL et forcément la dissolution de nos deux anciens groupes, Alternative Libertaire et la CGA.
Raconte-nous un petit peu le contexte actuel à Lyon, parce que de notre point de vue, enfin nous nous étions rendus à l'époque quand on avait des liens, enfin quand on pouvait encore se déplacer, c'est vieux, hein, lorsque ouais. La librairie était, enfin la Plume Noire était encore à l'avenue Blanc justement.
Ouais.
Ce contexte, quel est-il actuellement? D'autant plus que pour nous, depuis Genève, la Croix-Rousse, c'est effectivement un lieu qui, voilà, rassemble, il y a des traboules, enfin, que l'on identifie comme un lieu de lutte sociale et un lieu relativement, une zone relativement homogène de ce côté-là, de ce point de vue-là. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a des dissensions? Puis ensuite, on va venir sur, effectivement, cette apparition de groupe FAF, quoi.
Ouais, ouais. Alors sur la Croix-Rousse, alors en fait il y a deux arrondissements qui sont pratiquement l'un sur l'autre, hein. Donc du coup c'est vrai que la librairie elle est située sur les pentes de la Croix-Rousse qui est dans le premier arrondissement de Lyon. Et la Croix-Rousse, c'est le haut du plateau, du coup, qui est le 4e arrondissement de la ville de Lyon. Alors la Croix-Rousse, elle a pas mal changé depuis pas mal d'années parce qu'elle s'est fortement gentrifiée. Alors les personnes qui y habitent sont encore assez militantes et sont voilà assez au courant de ce qui se passe, mais ça reste quand même maintenant le plateau, notamment un quartier qui est difficilement habitable pour des personnes populaires. Et il y a pas mal de ménage qui a été fait. Et c'est ce qui commence à se passer aussi sur les pentes de la Croix-Rousse, malheureusement. Même si, du coup, quand même, ce quartier des pentes, il y a encore énormément de logements sociaux. Donc, avec pas mal de personnes issues du milieu populaire. Et avec des habitants, quand même, encore, qui se battent énormément pour éviter ce qui s'est passé sur la Croix-Rousse, pour éviter que ça arrive sur les pentes de la Croix-Rousse, donc dans le premier arrondissement. On a notamment des collectifs, auquel on participe, qui s'appelle les Pentes contre Bouygues. Parce qu'il y a quelques projets immobiliers, notamment juste à très peu de distance de la Plume Noire, voilà des projets immobiliers de luxe hein, avec des prix au mètre carré qui sont complètement fous et ce qui amènerait bien évidemment un changement de population et qui dit changement de population derrière peut-être des difficultés pour nous à fonctionner plus tard, mais il y a quand même une grosse lutte des habitants et habitantes à ce niveau-là.
D'accord, mais on peut dire qu'il y a effectivement une transformation sociologique de ces espaces-là, notamment via la gentrification.
Ouais, ouais, carrément, ouais, ouais. Le dernier signe en date, là-bas, il y a ce projet Bouygues qu'on espère faire tomber à l'eau. Mais voilà, il y avait un bar assez emblématique, qui était Place Colbert, qui est juste au-dessus de la Plume, qui a toujours été un bar militant malgré le changement de propriétaire, qui est même un peu fantasmé comme le bar antifasciste par les fachos. Et ben, ce bar-là, voilà, il a été repris il y a pas très longtemps. Et puis voilà, ce qu'il en ressort pour le moment, même si pour l'instant il y a les restrictions sanitaires, etc., c'est que ça reste, voilà, c'est devenu un bar presque classique. Et voilà, petit à petit, ça grappille du terrain, malheureusement. Et nous, on s'accroche encore sur ce quartier-là. Certains nous font la critique des fois, mais vu ce qui se passe au niveau de la population, c'est quand même encore un quartier qui peut être sauvé, on pense, nous, et dans lequel on peut très, très facilement militer parce qu'il y a beaucoup de sympathie, en fait, auprès de nous, de la part des habitants et habitantes.
D'accord. Ouais, effectivement, ça, c'était la question que je voulais te poser. C'est, voilà, les habitants, quel regard portent-ils? Parce que, bon, voilà, les activités de solidarité que vous faites, eh bien, elles sont tout de même à saluer. Et puis, je voulais savoir quelle est la température par rapport à ça. Est-ce que les gens adhèrent ou au moins vous regardent avec un regard, disons, bienveillant, ou est-ce qu'on devient de plus en plus dans des regards suspicieux?
Non, ça va. Après, nous, on fait quand même très attention à ce qu'on fait, notamment période hors Covid, aux soirées, etc., etc. Donc, on essaie non plus de ne pas faire monter la sauce, que ça pourrait être le cas. Il suffit des fois d'une ou deux personnes pour que ça fasse tomber des lieux. Donc, du coup, on fait attention à ne pas finir les choses trop tard, à ne pas faire trop de bruit, etc. Puis surtout, à partager le plus possible avec les voisins et les voisines, d'inviter systématiquement, de discuter à chaque fois qu'on les croise. Et certains viennent, du coup, à nos activités. Et, une fois que c'est s'est fait, une fois que le contact est établi, généralement ça se passe très bien. Il n'y a aucun souci. Voilà, après, forcément, on est toujours à la merci, pourquoi pas, d'une ou deux personnes qui pourraient être déjà contre notre idéologie, enfin très clairement contre, et après qui pourraient poser souci. Mais c'est vraiment pas le cas pour le moment. En tout cas, c'est pas ce qu'on a senti, et c'est surtout pas ce qu'on sent depuis les événements de la semaine dernière.
D'accord. Alors Julien, là, on a déjà fait un petit tour de la question, c'est-à-dire qu'on a installé l'écosystème dans lequel, eh bien, vous battez. Maintenant, j'aimerais te questionner sur, voilà, l'émergence de ces groupes FAF. Hein. Alors effectivement, pour nous, de nouveau depuis Genève, on a en tête le GUD, qui SMait à l'époque. Alors comment est-ce que tu expliques qu'il y a cette apparition décomplexée, en tout cas ce que l'on entend, de ces groupes FAF qui ont pignon sur rue, et notamment avec des locaux, je pense à l'Action française, je pense à la Traboule, les associations, certaines ont été dissoutes, en tout cas officiellement Bastion Social et Génération Identitaire. Voilà, comment t'expliques ça et qui sont ces gens-là?
Ouais, on avait fait des réunions intersyndicales, on avait participé, parce que on est pas mal de syndiqués aussi au sein du groupe, et on profite aussi pour faire entrer au sein du syndicat cette lutte aussi antifasciste. On avait fait un petit historique de Lyon, c'était assez intéressant parce que moi j'avais des méconnaissances dessus, et c'est vrai qu'on a l'image, depuis qu'on est tout gamin, de Lyon, de cette ville de la résistance, héroïque, Jean Moulin, etc., etc. Bah après, quand on regarde un peu l'autre face, un petit peu de la médaille, on voit aussi que c'était une grosse ville de collaboration quand même. Il n'y avait pas que de, l'entraide à Lyon. Et ça s'est ressenti vachement après aussi. Il y a une espèce de suivi qui s'est fait là depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant. À savoir, il y a pas mal de choses qui sont assez frappantes, notamment, par exemple, le nom des universités. On a des universités Lumière. Donc, voilà, le nom a été choisi forcément par rapport à ce que les Frères Lumière avaient apporté au cinéma, mais sans prendre en considération du tout leur côté politique. Hein. Il y en avait au moins un des deux qui était admirateur de Mussolini. On a aussi une fac à Lyon 3 là qui a accueilli quand même des personnes qui ont effectué des thèses négationnistes sans que cela ne pose de soucis au sein de l'université. On avait un prof, hein, Bruno Gollnisch, que vous connaissez sûrement, toujours au RN, hein, qui était au FN et qui était vraiment lui de la branche de l'œuvre française, hein, du Front National, voilà, qui était prof là-bas sans que ça pose de soucis non plus. Donc voilà, et puis on a aussi un héritage un petit peu de Cato plus, voire de Cato intégriste, qui fait qu'il y a un terreau vraiment sur Lyon, qui fait que ces groupes peuvent naître, ont du soutien et peuvent continuer à exister. Et c'est assez paradoxal parce que, contrairement à d'autres villes, le FN, le RN ne fait pas des scores mirobolants quoi, sur Lyon, en tout cas sur Lyon centre, les arrondissements, c'est plutôt des scores inférieurs à la moyenne nationale. Mais ils trouvent quand même sur Lyon le terreau pour se créer, pour se développer et pour implanter des locaux. C'est vrai que tu as parlé un peu du GUD, du Bastion Social et tout ça. C'est vrai qu'il y a je crois, 2 ou 3 ans, on avait quand même, s'il y avait un carte des jeux de famille, des groupes FAF qui existaient en France, on avait pratiquement toutes les familles sur Lyon qui étaient présente malheureusement, et avec des locaux, voilà, on avait le local effectivement de l'Action française, alors qu'il est en sommeil depuis un moment sur Lyon, et tant mieux. Il y avait le local du Bastion Social, et avant ils avaient ouvert un local avec le GUD. Il y a les 2 locaux de Génération Identitaire, il y avait un local du Parti National Français qui était un peu le reste de l'œuvre française après la dissolution. Et puis il y avait surtout des magasins. Il y avait un magasin de tatou, il y avait un magasin de vêtements qui était tenu par des gens du GUD et qui faisait tourner un petit peu l'argent dans le milieu, et ce qui leur faisait profiter de pouvoir louer des locaux et les ouvrir. Et puis on a une autre spécificité à Lyon qui est assez compliquée, c'est le stade. Voilà, il y a 2 clubs de supporters principaux à Lyon, quoi, et malheureusement, les 2 sont apolitiques, entre guillemets, voilà, mais très proches quand même, et c'est un lieu de recrutement pour l'extrême droite qui est assez hallucinant sur Lyon, quoi. Il y a plusieurs groupes différents, mais c'est vrai que le groupe principal, qui est les Bad Guns, alors maintenant ils se sont institutionnalisés, ils ont des liens avec le club, donc ils essayent vraiment de faire aucune politique au sein du stade, mais quand on regarde les origines des Bad Guns, enfin, c'est facile de retrouver ça sur le net, quoi, c'est des cartes postales avec des croix gammées, ce genre de choses. Et du coup, oui, forcément, quand on est à l'intérieur du stade, quand on y est, quand on vit les matchs, on voit quand même qu'il y a un climat qui est assez pesant. Voilà. Et les déçus du coup de ce COP-là, ben, en ont créé un autre de l'autre côté du stade, en virage sud. Et c'est là où il y a vraiment le plus de soucis. C'est là vraiment maintenant où se réunissent, alors, sans forcément appartenir à un groupe, mais les hooligans nazis de Lyon, et qui soit appartiennent à aucun groupe connu, soit y participent, ou soit participent, comme ça a pu être le cas samedi dernier, à des actions coup de poing de violence directe pour un peu grossir les rangs de tout le monde, quoi.
Ouais. On va arriver à cet épisode du 20 mars de samedi passé. Avant ça, j'avais encore juste une question. Peut-on parler Alors, de deux choses, de complicité et de réseau. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a chez les FAF une forme d'interaction pour justement surgir? Et est-ce qu'il y a, deuxième volet de la question, clairement des collusions avec, voilà, des personnes de pouvoir? Parce que, et ça nous permettra de parler ensuite du samedi de l'attaque. La police n'est pas là, la police n'a pas réagi. Alors, bien sûr qu'on ne s'attend pas à ce que la police fasse le ménage, on est bien d'accord, mais pas non plus qu'elle ne fasse rien, quoi.
Ouais, alors au niveau des coalitions un petit peu, alors il y a déjà eu des tentatives sur Lyon avant, notamment quand il y avait tous ces groupes qui existaient avec les locaux. À un moment donné, on parlait d'unité gauloise parce qu'il y a certains groupes, et notamment via des autonomes du stade, des autonomes nationalistes, qui avaient essayé de faire un petit peu cette unité-là, qui avait foiré, parce que il existe quand même des divergences, hein, entre ces groupes-là au niveau politique, hein, c'est très clair, entre l'Action française, les anciens du GUD, Génération unitaire, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs et n'a pas les mêmes stratégies pour faire avancer leur groupe, mais malgré tout, il y a quand même des choses qui se passent par des moments où il y a des alliances de circonstances qui se font. Donc voilà, ça c'est très clair. Alors effectivement, ça se fait aussi à l'étranger, hein, notamment Génération Identitaire qui voyage pas mal et qui essayait d'implanter son modèle au niveau européen. Le GUD, Bastion Social, le faisait pas mal aussi. Et au niveau du foot, effectivement, ça se fait toujours. Hein. Il y a des jumelages qui se font, je crois, avec les ultras sourds de Madrid, hein, qui est un groupe de supporters FAF aussi du Real Madrid. Il y avait aussi les Polonais de Lodz, où il y a aussi des choses qui se font, des fois des venues de supporters qui viennent. Il y a des liens avec la Serbie. Et donc voilà, il y a toujours des liens, je pense, aussi avec des clubs italiens comme la Lazio, où c'est très clairement affiché. Voilà. Ouais. Et au niveau des protections, ouais, tu le disais, bah ouais, alors nous, en tout cas, enfin, il y a des petits changements qui se font depuis les dernières élections municipales. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, avec Colomb, voilà, il y avait zéro soutien. À chaque fois qu'il se passait quelque chose, des attaques d'extrême droite, le seul discours qu'il y avait, c'était de dire extrême droite et extrême gauche, c'est la même chose. C'est une guerre de clans, on ne doit pas s'en mêler. Enfin, grosso modo, il déchargeait toute responsabilité là-dessus. Et la préfecture avait le même discours, exactement le même discours. On avait beau avoir les preuves en main, le nombre d'agressions, le nombre d'ITT, de personnes lambda, de militants ou de locaux, il n'y avait rien à faire, c'est toujours le même discours. Donc nous, effectivement, déjà qu'on ne compte pas là-dessus, normalement, mais là encore moins avec le père Colomb. Voilà, depuis le changement de municipalité, alors on n'entend pas grand-chose non plus, hein, faut bien le dire, mais par contre, il y a un changement de discours. C'est-à-dire que là, suite à l'attaque de la semaine dernière, par exemple, on a eu du coup quand même le maire de Lyon qui a fait une déclaration. Alors ça reste une déclaration, c'est du symbolique, il n'y aura peut-être aucun acte derrière pour vraiment régler la chose. Mais il y a ce petit quelque chose qui fait que, et c'est aussi un levier qu'on doit utiliser malgré tout dans des collectifs unitaires notamment, pour essayer de faire passer des messages et essayer que ça s'accélère un petit peu. Ouais. Donc voilà. Et la preuve, par contre, zéro news depuis l'attaque, zéro news. On en reparlera tout à l'heure par rapport à la manif qu'on organise. Oui. Ah, voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de changements là-dessus.
D'accord. Ouais, parce qu'il y a.
Oui. Ouais. Et dernière petite chose. Effectivement, on pense qu'il y a quand même des. Voilà. On sait quand même que la majeure partie des cadres, en tout cas, on parle bien des cadres, hein, de ces groupes-là, bah, sont des bourgeois. Après, ils arrivent à recruter des fois des personnes issues de milieux plus populaires, hein, parce qu'ils arrivent à leur retourner la tête. Et puis ces cadres-là, enfin voilà, on sent qu'ils sont protégés, qu'ils sont issus de familles, voilà, bien bourgeoises et qu'ont des contacts un peu de partout. On voit notamment quand ils ont des plaintes sur le dos, sur des agressions, les avocats qu'ils peuvent avoir, les moyens qu'ils peuvent avoir aussi sur des actions de fous. Et donc ça, on sait, voilà, qu'il y a quand même des choses qui se passent. On l'avait vu aussi au niveau national à Paris avec les OAV, avec le responsable de ce groupe-là. Quand même, c'était un gros fils de bourgeois. Je crois qu'ils sont pas été dans l'armée. Enfin, il y a quand même des choses qui nous font penser que il y a eu beaucoup de protection. Il y en aura peut-être un peu moins maintenant, mais voilà, en tout cas, c'est toujours un truc sur lequel on sait qu'on n'est pas sur le même plan que
on sent qu'il y a un carnet d'adresses et dont on joue pour avoir une certaine forme d'impunité, on peut le dire.
L'impunité en tout cas elle est clairement pensée comme ça chez eux, parce que vu les actions qui se passent, on peut pas imaginer autre chose, quoi.
Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.